L'Iran a fermement condamné la France pour avoir accueilli une récente réunion de l'organisation terroriste OMK, soulignant que le gouvernement français aurait connaissance tout prochainement des retombées politiques et juridiques de son action. 4 Palestiniens ont été tués par les militaires israéliens lors d'une attaque contre Jenin en Cisjordanie. Et 5e nuit de protestation en France. Des couvre-feux dans de nombreuses villes ont été instaurés. C'était les principaux titres. En voici le journal. L'Iran a fermement condamné la France pour avoir accueilli une récente réunion de l'organisation terroriste Mojahedin Khalr, OMK, signalant que le gouvernement français aurait connaissance tout prochainement des retombées politiques et juridiques de son action. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a déclaré dimanche 2 juillet qu'accueillir le récent rassemblement de la secte terroriste alors que la France vit des troubles politiques et sociaux généralisés prouve le mépris du gouvernement français pour les demandes de ses propres citoyens et que cela démontre encore une fois le soutien politique français continu à des groupes terroristes qui sévissent à travers le monde. Au lieu de compenser leurs graves erreurs du passé, notamment celles se rapportant au soutien qu'ils ont apporté aux assassins du peuple iranien, au lieu de se concentrer sur les racines de leurs problèmes internes qui sont profonds et qui méritent des solutions substantielles, et à la place de corriger les actes discriminatoires et racistes envers leurs propres citoyens, les hommes d'État français accueillent maintenant le rassemblement de terroristes dont des activités scandaleuses ont été récemment mises au grand jour depuis l'Albanie. Kanani a ensuite mis en garde le gouvernement français contre les retombées juridico-politiques du soutien apporté aux assassins des civils iraniens. Ces terroristes qui ont trahi leur propre pays et leur propre nation en commettant des crimes répugnants n'hésiteront très certainement pas aussi, le temps venu, à trahir leurs soutiens étrangers. Par conséquent, ceux qui soutiennent les terroristes, non seulement ils n'en tireront pas profit, mais en plus, ils seront finalement lésés par les actions de ces malfaiteurs, a-t-il souligné. Le diplomate iranien a conseillé aussi aux politiciens français de prêter plus d'attention aux demandes de leur propre peuple au lieu de soutenir de tels groupes qui ne font que fomenter le terrorisme et le chaos dans d'autres pays. Les remarques du porte-parole de la diplomatie iranienne sont intervenues après que le ministère iranien des renseignements a déclaré plus tôt dimanche qu'il poursuivait sérieusement les terroristes au-delà des frontières du pays à la suite d'opérations réussies qui ont conduit à l'arrestation d'individus affiliés au culte terroriste OMK. Le comité exécutif de l'Organisation de la coopération islamique, OCI, a organisé une réunion d'urgence dimanche de juillet à Jeddah, en Arabie Saoudite, pour débattre des répercussions de l'autodafé du Coran en Suède. Le CI a annoncé dimanche que des mesures devraient être prises pour éviter les actes répétés de profanation du Coran et l'insulte au prophète. L'indignation et la condamnation du monde musulman ont été généralisées depuis que Salwan Momika, 37 ans, un réfugié irakien, a profané mercredi dernier le Coran et a mis le feu au Coran devant la plus grande mosquée de Stockholm. Qualifiant la profanation du Saint-Coran et l'insulte au prophète de pire forme d'islamophobie, le CI a souligné la nécessité d'appliquer le droit international afin d'interdire l'incitation à la haine contre les religions. Lors d'une conversation téléphonique avec Hossein Ebrahim Taha, secrétaire général de l'OCI, Hossein Amir Abdullahian, ministre iranien des Affaires étrangères, a récemment suggéré qu'une réunion d'urgence des ministres des Affaires étrangères de l'OCI soit organisée pour discuter de la profanation du Saint-Coran. L'armée israélienne a lancé des raids aériens sur la ville occupée de Jenin en Cisjordanie, larguant des missiles et tuant au moins 4 Palestiniens, selon des responsables et des témoins. L'aviation et les forces terrestres israéliennes ont mené un raid nocturne sur la ville de Jenin et son camp de réfugiés en Cisjordanie occupée, tuant au moins 4 Palestiniens et blessant plus d'une dizaine d'autres, dont certains se trouvent dans un état critique. Selon le ministère palestinien de la Santé, l'un des jeunes Palestiniens tué lors du raid israélien du lundi matin, 3 juillet, s'appelait Sami Habwal Wafa, 21 ans. Et les 3 autres n'ont pas encore été identifiés. Ils ont été tués par missiles après que des avions israéliens ont visé une maison au centre du camp de réfugiés de Jenin. Selon des témoins oculaires, après que des avions israéliens ont lancé une série de raids aériens contre le camp de réfugiés de Jenin, des dizaines de véhicules militaires du régime sioniste ont pénétré le camp, à la suite de quoi des affrontements armés ont éclaté entre les combattants de la résistance palestinienne et les troupes israéliennes. Les médias palestiniens ont déclaré que les forces israéliennes ont pris d'assaut le camp depuis deux directions, tandis que les combattants de la résistance ont ciblé leurs véhicules avec des engins explosifs artisanaux. En plus de la maison visée au centre du camp de réfugiés de Jenin, des avions israéliens ont bombardé plusieurs autres endroits du camp, faisant des blessés parmi ses habitants. Alors que le raid aérien sur le camp se poursuivait, un grand nombre de forces israéliennes, dotées de bulldozers militaires et appuyées par des hélicoptères Apache et des drones de reconnaissance, ont fait une incursion dans la ville de Jenin. De nombreuses villes ont instauré des couvre-feux partout en France après les 5 nuits de manifestations qui ont suivi la mort de Naël à Nanterre. Ces restrictions concernent soit l'ensemble des habitants, soit seulement les mineurs. Certaines villes les ont prolongées pour plusieurs nuits, notamment à Darnétal, près de Rouen, où le couvre-feu sera instauré jusqu'à la fin du mois de juillet. Après 5 nuits de protestations qui ont secoué de nombreuses villes françaises, des restrictions de transport restent en vigueur dans une majorité de communes pour la soirée de dimanche. Des couvre-feux locaux sont aussi maintenus par certaines municipalités, notamment en Île-de-France et dans le Nord. Alors que les protestations touchent des dizaines de communes depuis la mort du jeune Naël, tué mardi par un policier lors d'un contrôle routier à Nanterre, les transports ont été suspendus en soirée dans plusieurs villes de France ces derniers jours. Certaines mairies ont aussi décidé d'adopter des couvre-feux. Autant de mesures de restriction qui sont encore prolongées dans de nombreux cas ce dimanche soir en prévision de toute nouvelle flambée de violence. Le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a de son côté décidé de reconduire le même dispositif que celui mobilisé vendredi et samedi soir, à savoir le déploiement de 45 000 policiers et gendarmes. En Île-de-France, le service des bus et tramways est toujours interrompu. Au plus tard, à 21h, une mesure prise vendredi jusqu'à nouvel ordre pour garantir la sécurité des agents et des voyageurs, avait annoncé le gestionnaire Île-de-France Mobilité. Les envoyés de l'Union africaine et des Nations unies en Somalie ont félicité les casques bleus burundais pour leurs efforts de stabilisation dans le pays. Mohamed Elamine Souef, représentant spécial du président de la Commission de l'Union africaine pour la Somalie et chef de la mission de transition de l'Union africaine en Somalie, ATMIS, et Anita Kiki Gbeo, représentante spéciale adjointe à la mission d'assistance des Nations unies en Somalie, ont cité les principales contributions du Burundi à la paix et à la stabilité en Afrique, en particulier en Somalie et en Afrique centrale. Selon M. El Amin Souef, cité dans un communiqué publié dimanche par ATMIS dans la capitale somalienne Mogadiscio, le Burundi a énormément contribué à la paix universelle idéale, principalement par le biais de solutions politiques ancrées sur la médiation et un engagement constant en faveur de la paix et de la sécurité. Le Burundi n'a jamais hésité à investir dans des opérations de paix qui représentent pour beaucoup de gens l'unique espoir de trouver une paix durable, comme en Somalie et en Centrafrique, a-t-il noté. Voilà, ainsi s'achève le journal. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute du commentaire politique. Les immigrés français sont confrontés à un niveau élevé de ségrégation, de surveillance et de mépris. les gens immigrés français sont confrontés à des niveaux alarmants de ségrégation ainsi qu'à la surveillance et au mépris de l'État de sécurité, déclare un éminent journaliste et réalisateur de documentaires. Dans une interview accordée au site anglais de Presse TV, Max Blumenthal, journaliste, auteur et cinéaste basé aux États-Unis, dit qu'il est familier avec les conditions auxquelles sont soumis les jeunes immigrés français en tant que co-auteur d'un documentaire de 2015 sur le racisme structurel et l'islamophobie en France. « Je ne suis pas Charlie ».« Je ne suis pas Charlie » a été réalisé par Blumenthal et James Klinefeld après leur voyage à Paris en été 2015 et après une enquête menée auprès d'un échantillon représentatif d'habitants de Paris pour examiner le niveau de racisme et d'islamophobie dans la capitale française à la suite de l'attaque contre le magazine Charlie Hebdo. Le débat sur le racisme structurel en France a été relancé à la suite du meurtre de Naël, adolescent de 17 ans, par la police française la semaine dernière. Un incident qui a déclenché des manifestations de colère généralisées dans tout le pays. La police française a allégué que le garçon tué avait commis des infractions au code de la route, mis en danger des piétons et conduit sans permis. Les preuves, cependant, ne confirment pas les affirmations et soulignent surtout l'innocence de Naël. Blumenthal a quant à lui affirmé que la dernière série de manifestations violentes avait été déclenchée par l'indignation légitime face à un autre acte de répression de l'État, en ajoutant que, d'après lui, il y a peu d'aspirations politiques parmi les jeunes dans les rues, une aspiration qui pourrait motiver des révoltes contre les agents de l'État. Blumenthal a par ailleurs expliqué: déjà Le Pen et l'extrême droite ont été renforcés alors que Macron lui-même a été affaibli. Aussi, c'est une aubaine pour les services de sécurité et la police, sous-entendu raciste. Il va sans dire que les forces de gauche anti-Macron, rassemblées autour de Mélenchon, seront considérablement affaiblies alors que la bourgeoisie française réclame l'ordre public. D'un point de vue international, a-t-il ajouté, la déstabilisation sociale en France révèle l'hypocrisie évidente des éléments transatlantiques qui ont salivé devant la brève rébellion armée du chef wagnérien Evgeny Prigogine en Russie, aspirant à ce que ce pays sombre dans une guerre civile sanglante. À noter que le président Macron doit rencontrer ce lundi les dirigeants des deux chambres du Parlement français alors que les manifestations font rage à travers le pays à propos du meurtre de l'adolescent de confession musulmane, Naël, par la police française. Selon les médias français, la police n'a procédé qu'à 49 arrestations dimanche contre 719 samedi et 1300 vendredi. Or, les manifestants en colère continuent d'appeler à la justice contre la brutalité policière en France.